Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Les chroniques estivales de la librairie des étudiants. Rencontre en librairie parisienne. Pour cette deuxième rencontre en librairie parisienne, je vous emmène dans l'Est parisien. Entrez dans la ligne 1 du métro et descendez à Saint-Mandé. Sortez du métro et descendez l'avenue du Général de Gaulle, et au bout d'un moment, sur votre droite, vous allez apercevoir la librairie Parole. Elle a une belle devanture bleue, presque électrique. Les murs de la librairie sont évidemment habillés de livres. Littérature étrangère et polar sur votre gauche, littérature française et sciences sociales sur votre droite. Le charme de cette librairie se fait aussi dans son architecture. Avec un petit promontoire, quelques marches pour gagner un demi-niveau où sont rangées les sciences sociales. Comme une petite terrasse pour surplomber le reste de la librairie. Sur certains espaces des murs, le long des piliers, des phrases ou des dessins se perdent. Comme un témoignage des auteurs et autrices eux-mêmes venus à la rencontre de leur public. C'est dans cet univers moderne et surtout chaleureux que Marie-Ève m'a donné rendez-vous. Chose rare, nous avons pris place dans la réserve de la librairie après avoir descendu un escalier en colimaçon. C'est ici, entouré de cartons remplis de livres, que nous nous retrouvons pour entendre une parole qui ne se trahit pas, la parole de libraire. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Thomas.
Merci de me recevoir dans votre librairie, librairie Parole.
Bienvenue.
Quelle est l'histoire de ce lieu ?
Alors, l'histoire de la librairie elle-même, elle existe depuis 1803. Donc, si vous allez sur le site de la librairie, vous pouvez voir une vieille photo de la librairie qui est quasi identique, en tout cas dans la rue, oui. Identique à ce qu'elle est aujourd'hui. On voit même les anneaux qui permettaient d'attacher les chevaux devant, donc c'est assez rigolo. Donc, c'est une vieille dame. Moi, je l'ai reprise il y a 6 ans maintenant, presque pile 6 ans. C'est donc un rachat, une reprise de librairie. Elle s'appelait autrement avant, elle s'appelait librairie Mots Émotions. Encore avant la librairie Monaco, du nom des propriétaires de la librairie. Et moi, je l'ai renommée Parole. D'abord pour m'approprier le lieu, en lui donnant un nom que j'aimais bien. Et puis Parole, parce que ça... Il y a plein de raisons. Enfin, d'abord, c'est un recueil de Jacques Prévert que j'aime énormément. J'adore la poésie. C'est aussi, pour moi, une librairie, un lieu où la parole doit être libre et où on doit parler. Ça permettait aussi de faire un lien avec le nom d'avant, mots, émotions, paroles, enfin voilà, bon bref, il y en a plein. et je serais contente de ce nom. Donc voilà, cette librairie est en fait une librairie qui existe depuis de nombreuses années.
Et préciser que du coup que c'est paroles au pluriel.
Et c'est paroles au pluriel, bien sûr. Ouais. Bah, comme le recueil de Jacques Prévert. Ouais.
Ouais. Il y a aussi une deuxième librairie paroles. Librairie jeunesse qui est un peu plus au-dessus, là où nous sommes. Est-ce que c'est aussi
Alors ça, pour le coup, c'est une création. C'est tout nouveau. Ça n'existait pas avant. J'ai créé la librairie Parole Jeunesse il y a 2 ans. En fait, à peine arrivée ici, je me suis dit... c'était impressionnant le nombre d'enfants et de parents qui achetaient des livres pour leurs enfants. Et vraiment, l'espace était trop serré. Mmh. Donc je pense qu'au bout de 2-3 mois, je me disais, il faut vraiment créer un lieu à côté, et puis j'ai repris la librairie en juin 2019, il y a eu le Covid en février-mars 2020, donc j'ai tout arrêté, j'avais qu'une idée, c'était surtout de réussir à maintenir la librairie, de maintenir l'activité, et puis dès que ça a été mieux, j'ai repris cette idée-là, le temps qu'un local se libère, etc., ça a pris un petit peu de temps, et donc Parole Jeunesse, il y a 2 ans, comme on fait déjà pas mal de mes confrères et consoeurs, et ça marche bien, je suis contente, c'est un bel endroit.
C'est vrai que c'est une période qui est moins évoquée de la part des libraires, cette période Covid. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué ?
Ah mais c'est l'âge d'or, tout le monde en parle. Pour nous libraires, le Covid, c'est l'âge d'or de la librairie. Les gens se sont rappelés qu'il n'y avait pas juste la télé. En fait, au bout d'un moment, ils en ont eu marre de regarder les écrans, puis c'était un peu anxiogène. Ils avaient du temps libre. La librairie était un des seuls endroits ouverts. Rapidement, ça a été considéré comme commerce de première nécessité. Il y avait la queue dehors de gens qui achetaient des livres. Enfin, c'était impressionnant. Et en fait, les toutes premières semaines ont été un peu anxiogènes parce que tout s'est interrompu. On n'était plus livrés. Enfin, ça a été compliqué. Mais moi, j'ai rouvert au bout de 3 semaines, d'abord toute seule et puis rapidement avec l'aide des libraires qui font partie de la librairie. On faisait du click and collect et les gens étaient vraiment contents. Enfin, ça les leur sortait de leur quotidien aussi, les livres. Hein. Et puis, ça a été un moment où on a pu retrouver le plaisir de lire des classiques aussi, puisqu'il n'y avait plus de nouveautés qui arrivaient sur les tables. Donc, on vendait ce qu'on avait, mais c'était super.
On se souvient notamment que La Peste de Camus a très bien marché à ce moment-là.
Best-seller, ouais, bien sûr.
Ouais, de nouveau. Vous avez parlé de l'équipe de cette librairie Parole. Vous êtes combien à la
Alors, quand je suis arrivée, il y avait deux libraires qui étaient là. Parmi ces deux libraires, il y en a une qui est partie, une qui est toujours ici. Et puis, l'équipe, il y a eu des mouvements de va-et-vient. Aujourd'hui, on est 5 en me comptant, plus une libraire qui vient m'aider le dimanche matin et certains samedis un peu chargés. Donc on est 5 un quart, quoi, voilà, 5 et demi. Et c'est une chouette équipe, que des femmes, c'est pas un choix, c'est que ça s'est fait comme ça. J'ai essayé de recruter des garçons, mais ça n'a pas marché. Et voilà, super, super équipe de libraires.
Dans cette équipe, il y a vous, on l'a dit. Quel a été votre parcours de libraire ?
Alors moi, je suis libraire depuis peu de temps. Je suis libraire depuis seulement 6 ans, en fait, en rachetant
depuis
la librairie.
Cette reprise.
Exactement. J'étais auparavant, je travaillais dans l'édition juridique, aux éditions Dalloz. Et j'ai fait plein de choses là-bas. Enfin, je me suis occupée du service des revues. J'ai été rédactrice en chef de plusieurs revues. Enfin, j'ai toujours aimé l'écrit, évidemment. Ben, je suis pas tombée dans l'édition juridique par hasard. En fait, j'ai un parcours de juriste, mais avec toujours l'envie de travailler dans le livre. Bon, il se trouve que ça a été l'édition juridique. Donc, d'abord les revues, ensuite le numérique. Et là, en fait, je me suis quand même beaucoup, beaucoup éloignée de l'objet écrit. Donc, j'ai eu envie de. J'avais 47 ans, je crois, à l'époque, envie de faire une autre partie de carrière qui me permettrait de retrouver un goût pour le livre et pour le roman, surtout, que j'adore. Donc, d'où le choix de me reconvertir, de partir en ayant suffisamment d'argent, en fait, pour pouvoir racheter une librairie après.
Dans ces librairies, on est entouré de livres, là, on ne peut pas le mentir auprès de ceux qui nous écoutent. Quels sont vos coups de cœur intemporels de libraire ?
Alors, coup de cœur intemporel...
Je sais que c'est une question qui torture le libraire à
chaque
fois. Non,
en fait, c'est assez facile. J'ai un livre qui m'a ébloui quand je l'ai découvert il y a 4 ans maintenant. Mais vraiment, ça a été un choc. Je me rappelle très bien, c'était en janvier. Donc, après la période d'essorage qui est Noël, où on n'a plus qu'une envie, c'est de se mettre sous une couette et de regarder des séries. Et en fait, il y avait ce livre que ma représentante à l'époque m'avait dit « Mais vraiment, il faut que tu lises, il va te plaire. » Et que j'ai pris, mais vraiment en ne m'attendant à rien. Même si l'auteur était très connu, mais c'est juste que je l'avais raté. C'est un auteur islandais qui s'appelle Jón Kalman Stefánsson. Le livre en question, c'est « Ton absence n'est que ténèbres », qui est pour moi vraiment son plus beau livre. Après, je les ai tous lus, donc je peux affirmer que c'est vraiment son plus beau. Et c'est un livre qui est éblouissant, d'abord par la forme, par le fond, parce qu'il n'est pas du tout construit de façon chronologique. Il y a des allers-retours en arrière. Ça se passe sur plusieurs années, donc en Islande. C'est des histoires d'amour, d'amitié, de trahison. C'est le roi de la digression. En même temps, il arrive toujours à nous retrouver. Il y a une langue qui est absolument incroyable. Enfin, bon, bref, c'est un livre qui est complet. Et mon énorme plaisir, il y en a deux à propos de ce livre. Le premier, c'est que d'abord, les gens à qui je le recommande, ils reviennent me remercier. Et j'ai vraiment des témoignages qui sont poignants, enfin, de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais merci, enfin, vous m'avez donné ce livre. » Et en fait... il est tombé à un moment de ma vie où ça n'allait pas et il m'a redonné de l'espoir. Enfin, voilà. Ça, c'est merveilleux quand on est libraire et qu'on a des clients qui vous font ce retour-là. Et mon deuxième bonheur, c'est que je l'ai reçu à la librairie, Jón Kalman Stefánsson. Pas pour ce livre-ci, évidemment, puisque c'était trop tard, mais pour le suivant, qui est « Mon sous-marin jaune », qui est le livre qu'il a sorti il y a 2 ans maintenant, 1 an. Et alors là, quand il est arrivé ici, que la librairie évidemment était remplie, parce que j'ai tellement parlé de lui qu'il y a beaucoup, enfin j'ai énormément vendu son et ses livres sous toutes les formes, en grand format, en poche, enfin bon bref, donc il y a beaucoup de gens qui l'aiment ici. Donc la librairie était remplie, lui était là, je me suis dit bon bah c'est bon quoi, enfin j'ai accompli mon rêve, tout va bien.
Je l'ai fait.
Voilà.
D'ailleurs, je me permets, lorsqu'il y a aussi vos rencontres que vous faites tout au long de l'année, il y a une particularité à la librairie Parole, c'est qu'à la fin, l'auteur dédicace une partie d'un mur.
Oui, tout à fait. On donne libre champ aux auteurs. Jón Kalman Stefánsson, il a mis son petit paraphe tout en haut de la librairie. Là, ouais. Alors après, je ne sais pas ce qu'on va faire quand les murs seront complètement remplis. Les pousser. Non, je vais les repeindre et puis on va recommencer, je vois que ça. Mais oui, c'est vrai que bon, y a plein de librairies qui font ça. C'est sympa. Il y a les signatures de Laurent Godet, de Isabelle Sorrent, de... je vais en oublier, donc ça va être horrible, je ne vais pas tous les citer. Cécile Coulon, enfin bon, bref, c'est vrai que tous les gens qui passent mettent un petit mot, plutôt des mots sympas. Donc ouais, c'est chouette, fait des souvenirs.
C'est très drôle en tant que client, lecteur, en arrivant dans une librairie, on se dit mais qu'est-ce qui se passe sur ces murs? C'est quand même assez surprenant, je dois vous l'avouer, mais c'est plaisant de se dire ah, tel et un tel est passé.
Ouais, ouais, ça laisse des traces.
C'est ça. Oui. Donc ça, c'est votre premier coup de cœur.
Alors, premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, donc pour parler français cette fois, et alors, oui. C'est un livre que j'ai découvert il y a un mois, honte à moi, j'avais jamais lu le livre de Colette. Et je me suis dit, non, mais quand même, je pars en vacances, je prends un classique et non pas un livre nouveau, et donc j'attrape celui qui me tombe sous la main, le premier en fait. Et donc j'ai découvert Le blé en herbe, qui est un grand livre. Du coup, évidemment, je me dis qu'il faut que je rattrape mon retard et que je lise tous les livres de Colette. Donc, ce que j'ai découvert, et je ne peux pas parler de ses autres romans, donc je ne sais pas si c'est un trait de caractère qui se propage à ses autres titres ou pas. En tout cas, dans celui-ci, bon, ce que j'ai adoré, c'est la façon dont elle arrive à capter cette période de bascule entre l'enfance et l'âge adulte, donc l'adolescence, qui est absolument mais incroyable. On se demande comment elle fait pour avoir... aussi frais dans sa tête des souvenirs de cette époque-là et avec une certaine intemporalité, puisqu'à mon avis, les adolescents d'aujourd'hui sont, en tout cas s'agissant des sentiments, les mêmes que ceux d'hier. Donc il y a ça, la façon dont elle décrit ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Et puis tout l'environnement, la nature, les animaux, le rapport au vivant, qui là aussi, je trouve, est d'une modernité absolument incroyable. Donc le livre, il fait, je ne sais pas, 150 pages, ça c'est en deux heures de temps. Et je trouve que c'est une belle lecture, puisqu'on arrive aux vacances, là, à partager en famille avec des enfants. Pourquoi pas à lire à voix haute? C'est quelque chose que j'ai fait très très longtemps avec mes filles. Alors, il se trouve que j'ai trois filles qui sont toutes les trois lectrices, hein, c'est mon grand bonheur. Mais l'une d'entre elles, et je ne vais pas la nommer, qui lisait très très bien, qui a su lire très vite, mais qui était assez paresseuse et qui a longtemps aimé qu'on lui lise des livres. Et en fait, j'ai longtemps lu des livres avec elle. Et d'ailleurs, sa sœur aînée venait se blottir à côté de nous pour profiter du moment. Et en fait, c'est bête de donner des conseils aux parents, mais franchement, continuer à lire des livres. Mais quel que soit l'âge, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de lecture à voix haute avec elle. On s'est lu Le Comte de Monte Cristo en voiture pendant les vacances. Je conduisais, elle lisait, et c'était génial. Et voilà, donc tout ça pour dire que Le blé en herbe, je pense que ça peut être une chouette lecture à faire en famille cet été, avec des jeunes qui ont entre 12 et 20 ans. Quoi.
Et puis comme quoi, les classiques ont aussi peut-être des clés pour nous.
Bah, il y a certains classiques qui sont un peu datés, et puis d'autres qui restent... j'aurais pu parler de mais bon, je pense que c'est une lecture qui est moins facile à partager, mais un de mes auteurs préférés, c'est Marcel Proust. Et oui. Je trouve, on ne va pas se lancer dans la recherche, mais par exemple, prendre Un amour de Swann, c'est le conseil que je donne à tous les gens qui veulent se lancer dans Proust et qui n'osent pas. Bah, commencer par ça, c'est une histoire qui s'intercale en fait à l'intérieur de La Recherche du Temps Perdu. Magnifique histoire d'amour. On s'y retrouve tous forcément. Voilà, donc oui, les classiques, c'est du bonheur, quoi.
Vous évoquez les classiques, ouais. Que ce soit Colette ou Proust. Certains peuvent avoir très peur à l'idée de se lancer dans ces classiques. Peut-être pour se dire qu'ils n'ont pas forcément les armes, peut-être. Ça peut être aussi une appréhension. Et vous évoquez aussi le fait que vous avez lu Colette sur le tard. Mmh. Est-ce que c'est bon aussi de rappeler qu'il n'a pas d'âge pour découvrir des classiques?
Alors, il n'y a pas d'âge pour découvrir les classiques, il n'y a pas d'obligation de lire des classiques. Moi, je pense, je vais peut-être me faire des ennemis, mais en tout cas, par exemple, quand on est enseignant, vouloir à tout prix que les élèves lisent les classiques, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le plaisir de lire, quoi. Et le plaisir, il se trouve, c'est pas le même déjà tout au long de la vie. Enfin, à 15 ans, 30, 40, 60, on n'a pas le même plaisir. Par exemple, moi, je lisais jamais d'essais, j'en lis maintenant. Donc ça change. Et un jeune qui n'arrive pas à lire Colette ou Proust à 15 ans, ce n'est pas grave, il le lira peut-être plus tard et ce n'est pas gênant, il lit d'autres choses à la place. Enfin, en revanche, ce qui compte, c'est qu'il lise, que ce soit des BD ou autre. Donc oui, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge et qu'il n'y a pas de peur à avoir et qu'on n'est pas toujours prêts tous au même moment pour appréhender un auteur. Typiquement, Proust, pourquoi le lire dans l'ordre? On s'en fiche. Et par exemple, commencer par un amour de soi, bah, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de voir si on est justement en capacité de recevoir, de communiquer avec ce livre ou pas. Quoi. Si ça passe, bah, on peut peut-être se lancer, recommencer au début et se lancer. Si ça marche pas avec celui-là, faut surtout pas insister et réessayer des années plus tard. Et c'est pas grave, il y a pas d'obligation non plus.
Et si on ne lit pas un classique, on est d'accord que ce n'est pas grave?
Alors vraiment pas. Non.
Parole de libraire.
Ouais, on vend tout. Et je vais vous dire, en ce moment, il y a un phénomène, vous en avez forcément entendu parler, c'est le phénomène de la femme de ménage.
Ah oui. J'en ai parlé, ouais.
Oui, c'est forcé, vous avez forcément vu quelqu'un lire. Donc tout le monde lit ce livre. Nous, il y a des gens qui viennent le demander et je trouve ça génial. Alors, le livre en lui-même, moi, j'ai pas d'opinion, je l'ai pas lu. J'ai une de mes collègues qui l'a lu, qui a pas trouvé ça extraordinaire. Mais en fait, je m'en fiche. Ce que je trouve super, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent, qui rentrent dans cette librairie, qui n'avaient jamais mis les pieds dans la librairie, qui viennent acheter ce bouquin. Et puis après, ils sont tellement accros qu'ils prennent la suite. Et puis une fois qu'ils ont tout éclusé de l'autrice, ils viennent nous voir en disant « Mais maintenant, je lis quoi ?» Et voilà. Et en fait, le poisson est ferré. Mmh. Et c'est ça qui compte, en fait. Donc honnêtement, je pense que peu importe le point d'approche, le point d'accroche qu'on a avec le livre, ben, il faut qu'il y en ait un, c'est tout. Et quelqu'un qui ne lit pas, c'est juste quelqu'un qui n'a pas trouvé le bon livre, en fait.
Merci de le rappeler.
Bah oui,
de
c'est
dire
important.
Qu'on peut lire de tout, c'est important, surtout aujourd'hui, quand on voit que certains disent non, il faut lire que des classiques ou pas. C'est très bien de le
rappeler. Et après, il y a des livres contemporains qui sont exceptionnels. Et si on poursuit dans les coups de cœur,
oui.
Donc ce qui est arrivé là parmi les derniers mois, qui est un de mes gros coups de cœur de l'année, c'est le livre de Camille Laurence qui s'appelle Ta promesse, qui je pense vraiment peut être lu par tout le monde à plusieurs niveaux de lecture. Et c'est ça qui est génial dans ce livre, c'est que un, ça peut servir comme un thriller parce qu'il en emploie les codes de façon remarquable. En fait, il s'est passé quelque chose et on a envie de savoir quoi. Et elle est assez maligne pour nous le dévoiler qu'à la fin. Donc il y a ça. On peut lire comme un roman psychologique parce que les personnages sont vraiment écrits, décortiqués de façon remarquable. Donc on rentre dans leur tête complètement. Ça peut être lu comme un livre féministe et qui va dénoncer le phénomène de l'emprise. Il se trouve que c'est celui d'un homme sur une femme, mais ça pourrait être le contraire. C'est pas tellement le propos. S'ajoute à tout ça des qualités incroyables dans la construction du livre, dans la façon dont elle va adopter plusieurs points de vue. Enfin voilà, tout ça est très réfléchi et en même temps très fluide. Et il y a plusieurs façons de lire le bouquin. Et je pense que c'est un livre qu'on peut recommander vraiment à tout le monde, quoi.
Qui a d'ailleurs été couronné par le Grand Prix RTL Lire, entre autres.
Oui.
Qui a été un grand succès de cette rentrée d'hiver.
Ouais.
Je crois qu'on va le dire quand même, vous avez interverti votre troisième coup de cœur.
Oui, j'ai interverti mon
troisième coup de cœur. Est-ce qu'on peut en faire une mention honorable pour le...
Oui, alors c'est pas une mention, c'est une mention plus qu'honorable. Disons que le livre de Camille Laurence, il est sur les tables depuis le mois de janvier, donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai énormément conseillé en janvier, février, mars. Et puis maintenant, bon voilà, il suit sa vie, je continue à bien le proposer, mais se rajoute à ça un livre que j'ai lu il y a un mois ou deux et qui, je trouve, est incroyable pour notamment un premier roman, c'est le livre dont vous avez entendu parler, de Adèle Yonne, qui s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth, qui lui aussi a reçu pas mal de prix, dont je crois d'ailleurs pas plus tard qu'hier le prix Grand Prix d'électrice de Elle, qui est fascinant pour un premier roman, qui va, donc c'est en fait une forme d'enquête de l'autrice sur son arrière-grand-mère, qui se trouve avoir été internée pendant 17 ans, qui a été diagnostiquée schizophrène, qui a été lobotomisée. L'ombre de cette arrière-grand-mère plane un peu sur tous les membres de la famille, notamment sur les femmes, quand elles arrivent à 20-25 ans, donc l'âge auquel la fameuse Betsy a commencé à développer des troubles. Et en fait, l'autrice va enquêter sur cette femme en essayant de rétablir la vérité à son propos, en fait. Et donc, c'est une enquête. Elle y mêle des données qu'elle a recueillies en faisant sa thèse, parce qu'elle a fait une thèse en anthropologie ou sociologie, sur la lobotomie. Et donc, tout ça se mélange. Et en fait, elle arrive à redonner voix à cette femme de façon incroyable et à rétablir la vérité. Donc là aussi, c'est un récit, c'est très personnel. Et en même temps, ça se lit de, ouais, ça se lit comme un roman, quoi, là où on a envie de savoir comment ça va se terminer. Et c'est un livre magnifique.
Quatrième coup de cœur, donc.
Allez, quatre.
Qu'on mettra sur notre fameuse pile à lire. Parmi les coups de cœur, peut-être qu'ils vont venir, vous en avez peut-être quelques-uns, parce qu'en ce moment, Paris est en train de bouillonner sur la rentrée littéraire. On commence déjà, enfin surtout vous, les libraires, vous commencez déjà à recevoir un peu ce qui va arriver en septembre, même fin août déjà, pour la rentrée. Est-ce que parmi la multitude de livres qui arrivent, vous avez déjà peut-être un ou deux titres qui vous intéressent, qui vous intriguent, ou que vous avez peut-être déjà un coup de cœur, allez savoir?
Alors là, vous me piégez parce que j'ai pas préparé cette question, et en l'occurrence, j'en ai lu déjà pas mal de livres, il y en a énormément que j'ai adoré. Donc en sélectionner un, ça va être compliqué, mais je vais tricher, je vais parler du livre. En fait, j'ai décortiqué la rentrée littéraire pour Page des libraires il y a un mois à peu près.
Oui.
Et parmi tous les livres que j'ai lus, il y en a un que j'ai sorti encore un peu plus de la pile en interviewant son autrice, et ça a été un grand moment pour moi. C'est un livre de Marie Richeux, que vous connaissez peut-être parce qu'elle anime le book club sur France Culture.
Absolument.
Et qui sort son sixième roman chez Sabine Vespizer, qui s'appelle Officier Radio. Moi, c'était la première fois que je lisais un livre d'elle, et j'ai été éblouie par ce qu'elle a fait, en fait. Parce que là aussi, c'est un récit de l'intime. Ce n'est pas forcément des livres vers lesquels je vais naturellement. Moi, j'adore les histoires amples, j'adore être embarquée dans des univers. Donc, ce n'est pas forcément des livres qui m'attirent à première vue. Mais là, je trouve que c'est remarquablement écrit. Elle parle d'un de ses oncles qui a disparu en mer. Et là aussi, elle va repartir en arrière, essayer de reconstituer l'histoire de son décès, en fait, un naufrage de bateau. Mais c'est aussi une façon de se raconter, de raconter sa famille. Et puis, ce qui compte, encore une fois, c'est les mots qu'elle utilise pour faire tout ça, qui sont un livre magnifique.
À découvrir donc.
À découvrir dès la fin août, je crois. J'ai pas
pour la rentrée littéraire. Merci beaucoup, Marie-Ève.
De rien, Thomas.
Merci de m'avoir reçu.
Merci.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour découvrir une nouvelle librairie parisienne. D'ici là, vous pouvez retrouver la capsule auditive de notre entretien du jour avec Marie-Ève, ainsi que ses coups de cœur littéraires en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer un bel été et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.